Bonjour à toutes et à tous. Avant que ce nuage ne déferle sur nous, on va vous parler de Grand Tour de Miguel Gomes présenté en compétition. C'est la première fois que Miguel Gomes présente un film en compétition. La dernière fois qu'il était venu à Cannes, c'était en 2015 pour Les Mille et Une Nuits qui était présenté à la Quinzaine des cinéastes. Je me souviens, j'avais 20 ans à l'époque, j'avais vu le film à Paris et j'avais vraiment été très impressionné. Je crois que c'était mon film préféré de cette année-là. Et voilà, Miguel Gomes, c'est quand même un cinéaste qui a pas mal compté pour moi. Et du coup, c'était un peu mon attente principale en compétition, attente qui a été en partie déçue, on va y revenir. Pour résumer simplement le film, qui voilà, est un film hybride comme beaucoup de Miguel Gomes, c'est l'histoire de. Ça se passe en 1918 et c'est l'histoire d'un homme qui fuit sa fiancée. En Asie et qui passe d'un pays à l'autre avant que dans une deuxième partie ce soit là, on découvre effectivement le voyage de la fiancée qui le suit vraiment sur ses pas et qui fait parfois les mêmes interactions. Qu'en as-tu pensé, Josué?
Oui, alors je suis un peu comme toi, c'est-à-dire bon, je suis moins comme chien que toi, même s'il y a des films de lui que j'ai aimé, et c'était une attente d'une part parce que c'est vrai que Gomes a souvent été annoncé en compétition sans jamais y être, que ça fait un moment aussi que le cinéma portugais ne s'était pas retrouvé en compétition. Je crois que la dernière fois c'est en avant-jeunesse de Pedro Costa. Et puis aussi parce que là, dans le cadre de cette compétition, on misait quand même, il faut le dire, un peu beaucoup sur Gomes pour nous réveiller dans la dernière ligne droite. Je pense qu'on peut résumer la déception du film vraiment dans son dispositif, c'est-à-dire que le film s'ouvre sur une grande roue qui tourne et va lui-même organiser une sorte de double grand tour qui est répété. Donc le grand tour, c'était aussi une espèce de pratique touristique coloniale qui consistait à visiter un certain nombre de pays d'Asie, voilà, de faire cette espèce de grands tours touristiques et en fait en entrelaçant toujours ce qui est quelque chose de très gomchien, une partie fictionnelle, romanesque, dans un noir et blanc qui peut évoquer d'ailleurs celui de Tabou, qui était lui aussi une espèce de fiction post-colonialiste en deux parties qui revisitait à la fois une certaine histoire de la colonisation et une certaine histoire du cinéma, puisque la référence principale c'était quand même le Tabou de Murnau d'une certaine manière. Et puis une trame qui sera beaucoup plus documentaire, avec l'idée qu'en fait les images documentaires sont des images au présent, sur lesquelles se superpose une voix off qui raconte une trame romanesque qui est une trame qui est toujours la même, c'est-à-dire deux amants qui se suivent avec un décalage. Et qu'en gros j'ai l'impression que le film, et je reviens à ce geste de la roue, pose ces deux trames, les met un peu les unes sur les autres et attend que ça prenne d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, dans le film, vraiment ne prend pas, une stratégie de mise en scène qui serait presque une forme d'infusion. C'est-à-dire, on va coller comme ça ces deux trames exogènes et on va laisser infuser. Et ce qui m'étonne beaucoup dans le film, c'est que d'une certaine manière, soit le rapport entre la bande image et la bande son souffre de redondance, soit au contraire, j'ai l'impression qu'on pourrait complètement remonter le film, on pourrait mettre des images du Laos à la place des images de Shanghai avec le même propos narratif et ça produirait exactement la même chose. Et il y a un côté comme ça pendant deux heures de ruban d'images raccordés par cette voix off et raccordés par cette trame qui est quand même réduite à l'os de fiction romanesque, mais que globalement, il se passe quand même assez peu de choses formellement en termes de dialectique, même de montage. Il y a quelques surimpressions, il y a quelques effets, quelques coquetteries d'ailleurs, un peu gomchienne, un bip qui censure un gros mot, voilà, des petites choses comme ça.
C'est un peu gratuit en effet.
Voilà, des petites choses comme ça qui font partie du cinéma de Gomes, qui s'amuse beaucoup et qui joue généralement avec une matière hybride. Et là, je dois dire que vraiment, le film est même un peu déconcertant dans son espèce d'inanité à vraiment tirer quelque chose de ce dispositif qui, à mon avis, est un peu un geste d'auteur rigide mais qui produit pas grand chose.
Bah, là où je trouve que ça circule, enfin le film m'a fait un peu penser, c'est marrant, à Caught by the Tides de Jia Zhangke, oui, dont Corentin avait parlé dans Une carte blanche, qui était aussi un film où il y avait un mélange de documentaires sur lequel le cinéaste venait sorte de plaquer une fiction, c'est-à-dire qu'une scène sur deux on avait une forme de vraiment de documentaire et ensuite on voyait l'actrice de Jia Zhangke
qui était vraiment le principe aussi des Mille et Une Nuits de certaine manière, si on allait à la quintessence de ce qu'il essayait de faire. Ouais.
Et là où ça circule, se trouve, c'est plus peut-être thématiquement, parce que donc il y a cette fiction un peu post-colonial, comme tu dis, c'est-à-dire qui m'a fait un peu penser, on suit un personnage qui est un attaché de l'ambassade d'Angleterre en Birmanie. Bon, tout le monde parle portugais, c'est un peu un artifice comme le cinéma de l'ancien temps où à chaque fois dans tous les pays on parlait anglais. Miguel Gomes se l'accommode, mais version portugaise.
Même si on entend quand même si, ensemble, oui, voilà, de voix de...
Ben, notamment la voix off à chaque fois s'adapte à la langue du pays dans lequel le récit se situe à ce moment-là. Donc on passe d'une voix off thaïlandaise à une voix off japonaise, par exemple. Et voilà, ce récit-là qui a un côté est un peu mou aussi d'une certaine manière, enfin c'est ça, c'est vraiment c'est un film devant lequel on peut s'endormir et se réveiller et comprendre toujours ce qui se joue, non pas que ça me soit arrivé, je m'en défends, mais Mais voilà, qui distille quand même cette espèce d'impression de bizarrerie coloniale, ce concept de grand tour, des personnages comme ça qui me font un peu penser à des personnages pinchoniens, en fait, de Thomas Pynchon, l'auteur. Il accole ça donc à ce documentaire au présent qui, en fait, dans sa forme, fait vraiment penser à du cinéma ethnographique, c'est-à-dire les films de Jean Rouch plus proche de Gomsch, les films de Eric Powels, par exemple, comme Lettre d'un cinéaste à sa fille, où vraiment il va chercher comme ça des impressions, voire des sensations dans quelque chose de qui serait effectivement un monde oriental avec peut-être une forme de pittoresque qu'on pourrait lui reprocher, mais néanmoins qui parvient à capter comme ça des formes vraiment très très visuelles qui parfois produisent des choses. Moi, notamment, ce que j'aime bien, c'est quand le film à plusieurs reprises va prendre un morceau de musique c'est-à-dire va filmer vraiment une scène documentaire de un personnage qui une fanfare qui passe ou un personnage qui joue de la guitare sur un bateau à un moment et qui va ensuite faire un montage à partir de cette musique là qui va recouvrir d'autres images jusqu'à rejoindre la fiction. Il y a quelques frictions comme ça, mine de rien, qui pour moi produisent quand même quelque chose, même si c'est quelque chose d'un peu abstrait, peut-être de l'ordre d'une sensation, mais en général, je suis quand même d'accord avec toi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas tout à fait et qui est en tout cas moins abouti que dans Tabou, dans Les Mille et Une Nuits, sur justement cette rencontre entre fiction et documentaire.
Non, mais je suis d'accord avec les exemples que tu mets en exergue. Il y a quelques moments dans le film que je trouve un peu plus inspirés ou qui se démarquent. Mais c'est vrai que moi, ce qui me semble même étonnant, alors c'est en deux parties, mais c'est pas deux parties qui sont aussi nettes que d'ordinaire chez Gomes. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des cartons où il y a une forme de fiction qui est très nette. Et moi, je suis un peu étonné de voir à quel point en fait tout le film est un peu sur la même tonalité, en dépit d'une forme de polyphonie. Qui soit évidemment alors les différentes langues, mais aussi la musique, comme tu en as parlé, et puis cette friction entre a priori deux choses qui sont à la fois des mêmes localités, mais des temporalités qui sont complètement opposées. Et moi, je trouve ça étonnant à quel point le film, au contraire, a peu d'accroche, et comme s'il y avait une forme de fossilisation du style de Gomsch. C'est-à-dire qu'en plus, il y a vraiment tous les éléments de ses films précédents. Il y a un côté presque de
une fermeture à l'iris, par exemple.
Exemple de pot-pourri ou de paella, de plein d'éléments distincts. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose qui ne prend pas. Moi, ça m'interroge aussi sur une tendance qu'on peut retrouver d'ailleurs au Festival de Cannes quand on a des cinéastes installés. Je pense par exemple à Cronenberg, c'est-à-dire à quel moment un cinéaste qui a un univers et un style hyper identifié finit par en fait ne plus que travailler les rebuts, les reliquats de son imaginaire plutôt que de véritablement mettre en scène. Et moi, ça me frappe vraiment par moments de me dire de certaines manières que je vois presque une espèce de bande continue qui évoque le style de Miguel Gomes, mais je ne sens pas vraiment le regard de Miguel Gomes articulé autour de... Alors ça tient peut-être aussi à la gestation compliquée du film, hein. J'ai même cru comprendre que visiblement il y a une partie du tournage qu'il a dirigé à distance à cause de l'épidémie de Covid. Il y a vraiment quelque chose à mon avis de désincarné, d'un geste d'auteur qui table un peu sur une forme encore une fois d'infusion, et je pense que l'expression est intéressante, mais je pense aussi, tu vois, à certains films de Bertrand Bonnet, le haut, j'ai l'impression que les films sont des espèces de décoctions où on met plein d'éléments différents dans une marmite et on fait cuire à feu doux et on attend que ça produise quelque chose de l'hybridité. Et le problème, c'est que je vois le geste hybride, mais je ne le ressens pas vraiment, et je trouve que ça produit pas énormément de choses.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est effectivement. Là où je suis d'accord avec toi, c'est notamment sur la structure. En fait, il y a cette idée donc des deux parties, un personnage puis l'autre, mais en fait, il y a deux parties qui sont tout le temps collées, qui est donc le documentaire et la fiction. Ce qui fait qu'en fait, les deux parties effectivement sont pas si étanches que cela, elles se ressemblent en fait énormément. C'est un peu la suite, il y a toujours les mêmes théâtres de marionnettes qui sont revisités. Là où effectivement, par exemple, Tabou, il y a vraiment une sorte de vertige à la coupée en deux. Moi, c'est vrai que j'aime bien les films coupés en deux, ce que ça produit, Psychose, tout ça. mais là, c'est effectivement, il n'y a pas tellement de vertige, c'est-à-dire qu'on pense effectivement que ça va être un peu relancé, et il y a quelque chose quand même d'un peu troublant dans cette relation. Enfin, il n'y a pas tellement de sens à ce que ces deux personnages qui s'aiment se fuient, enfin que l'un fuit l'autre, et il y a comme ça tout le récit un peu basé sur cette espèce d'absurdité, de lâcheté masculine un peu incompréhensible.
On se rend compte quand même à un moment qu'ils s'aiment peut-être pas vraiment, mais qu'ils sont pris dans un espèce d'élan romanesque qu'il faut aller au bout, et que les personnages aussi, à leur manière.
Et ça devient d'ailleurs de plus en plus cruel vis-à-vis de ça et vis-à-vis de leur position de colon. Après, Donc ouais, je partage ta déception. Reste tout de même que derrière les petites coquetteries, comme tu les appelles, ça reste formellement un film qui m'intéresse un peu plus que pas mal de films qu'on a vu en compétition, ne serait-ce que par les plans dont j'ai parlé, ou cette surimpression dont on avait parlé à la sortie de la séance. Il y a vraiment une surimpression qui dure presque 5 minutes, où je crois que c'est... Une parade de scooters comme il peut y en avoir dans certaines villes d'Asie avec un musicien, je crois, enfin je confonds peut-être, mais effectivement bon, il y a quelque
images,
chose qui ne prend pas tout à fait.
Les images sont trop belles,
c'est normal de confondre.
C'est un peu le problème aussi. Il y a un côté ruban d'image qui fait que d'une certaine manière, même s'il y a deux, trois choses que je trouve inspirées, je pense qu'elles sont écrasées par cette espèce de ronron quelque part du montage qui produit assez peu de friction.
Et finalement, paradoxalement, c'est son premier film vraiment ample depuis Les Mille et Une Nuits. Mais en fait, le journal de Tuwa, ce petit film d'1h30 qu'il a fait pendant le confinement, qui n'était pas prévu, et finalement. Peut-être plus abouti que ce film-là. Enfin voilà, bon, c'est une petite déception quand même pour Miguel Gomsch, et c'est maintenant l'heure de la carte blanche.
Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle carte blanche, je vais vous parler d'Un pays en flammes de Mona Convert, qui est un premier long métrage documentaire qui est présenté à l'Acide. Alors c'est la plus petite sélection du Festival de Cannes, et c'est un petit film, entre guillemets, puisqu'il ne dure que 1h11. C'est pas pour autant que c'est un film du tout réduit, au contraire, je trouve que c'est même un film qui propose des scènes parmi les plus belles que j'ai pu voir durant cette quinzaine à Cannes. Alors c'est un film qui suit une drôle de famille dans les Landes, qui suit une famille en fait qui est tout entière consacrée à l'expérimentation ou à la préparation de spectacles de feux d'artifice. Donc c'est un film un peu pyrotechnique. Ce qui est assez fascinant, moi je trouve, dès le début du film, c'est que en fait Mona Convert va filmer vraiment la nuit, en pleine nuit, les Landes. On voit des animaux qui apparaissent un petit peu comme des fantômes, on voit des biches, on voit des moutons, on voit des chiens, voilà, il y a tout un bestiaire comme ça qui se présente à nous. Et le cœur du film, alors, il n'est pas entièrement constitué de scènes de feux d'artifice, il y a aussi un petit peu de portraits sur cette famille, même si le film est assez, finalement, assez peu loquace là-dessus. Il y a surtout les scènes de feux d'artifice, et celles-ci, elles m'ont vraiment provoqué un sentiment de fascination, notamment dans la manière dont, en fait, l'apparition de la lumière et la disparition d'autres feux dans le cadre, hein, ça apparaît à droite, à gauche, en bas, en haut, et en fait, on va avoir une sorte de recomposition comme ça du cadre sans cesse, c'est-à-dire que, même si c'est un plan long, même si c'est un plan fixe, le plan est complètement en mouvement, il est toujours en train de changer, de muter, et il y a vraiment quelque chose d'assez magnifique là-dedans. Moi, ça m'a fait penser à certaines séquences d'Apichatpong ou Erasetakul, ou à certaines de ces installations, dans la manière dont voilà, le cadre se recompose sous nos yeux, le visible et l'invisible sont sans cesse en train de se passer le relais. Et puis il y a notamment aussi une des dernières scènes de feux d'artifice à la fin, où en fait l'intensité lumineuse et le jaillissement des feux d'artifice est tellement rapide que la caméra, qui filme donc à 24 images par seconde, comme c'est souvent le cas au cinéma, n'arrive pas à suivre, et ça transforme le film en espèce de film expérimental, en fait, où on a des sortes de flashs comme ça, de lumière, des flashs d'ombre sur voilà, des visages, sur des forêts, sur des plans d'arbres, etc. Donc c'est vraiment un très beau film, je crois qu'il va sortir dans un petit moment, donc l'oubliez pas, notez-le dans un coin, puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.